Le samedi 7 juillet à Florac, Trois-Rivières, le parc national des Cévennes organisait pour la première fois la fête de l'agriculture biologique en partenariat avec la municipalité de Florac, Trois-Rivières. S'est tenue une table ronde, un regard croisé sur la production bio, témoignage de 5 éleveurs du Cosméjean, des Cévennes et de la vallée du Lot. Cette table ronde était animée par Vincent Tardieu, journaliste, scientifique et auteur. Troisième partie.
Je vais peut-être prendre, s'il y a des questions ou des petits commentaires dans la salle, dans l'assistance, oui. On va peut-être pas vous passer un micro, donc...
bonjour, moi je travaille beaucoup dans l'agriculture africaine et aucun d'entre vous n'a parlé du coût de la certification.
Il y a eu une allusion par la directrice du parc pour dire que... Il y avait une offre de la première année par le
parc. Mais ouais, justement, c'est parce qu'en fait, c'est beau, c'est une contrainte quand même qui est très forte. Moi, enfin, que dans ma, je connais pas très bien l'agriculture ici, mais dans la connaissance que j'ai, c'est une contrainte qui est extrêmement forte, le coût de la certification. Et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, sachant que des collectivités aussi le prennent en charge selon les collectivités. Christine, peut-être un mot là-dessus?
Oui.
On va être un peu rapide sur cette question.
D'accord. Alors. Le coût de la certification, si on dit combien on paye à l'organisme qui nous certifie. Si c'est ça le coût de la certification, c'est pas très cher. On va dire, bon, c'est suivant la taille de l'exploitation, le nombre d'hectares, le nombre d'animaux. Tu me parlais de 500 euros, moi je suis à 700, voilà, ça dépend de l'exploitation, 700 euros par an. Mais c'est, pour moi, le coût de la certification, c'est pas que ça. C'est le changement de pratique qu'engendre justement d'arriver à cette certification. Et là, ça a un coût réel, parce que c'est complètement autre chose. Quoi. Il faut changer. Parfois, on ne change rien. Nous, il y a une partie des surfaces où on n'a absolument rien changé. Les prairies naturelles, on ne mettait pas d'intrants depuis 30 ans, ou, enfin 28 ans exactement, on a calculé. Donc là, on n'a absolument rien changé. Par contre, voilà, on faisait des maïs, on n'en fait plus. On faisait des raies gras, on en fait beaucoup moins. On s'est mis à faire plus de métail. On travaillait avec de l'aliment acheté, on s'est mis à essayer de valoriser nos céréales, parce que nous, on a de la chance de faire quelques céréales. Voilà. Et du coup, c'est un modelage complètement différent de l'exploitation. Et ça, ça a un coût réel et une remise en cause. Elle le disait, Patrick a plaisir à 50 ans de se remettre en cause. Et je crois que c'est ce qu'on a trouvé aussi, tous ceux qui sont passés, c'est cette nouvelle motivation, enfin, c'est une nouvelle motivation pour se produire autrement. Se produire autrement nous a obligés, quelque part, à nous remettre en cause alors qu'on croyait avoir quelque chose de très bien établi. On était en vitesse de croisière, ce qu'on appelle, voilà. Et bien non, à 50 ans, ça permet de se remettre en cause. Et c'est motivant, hein, il n'y a pas de souci, mais il faut s'y adapter. Voilà, et ça a un coût, je pense. Oui. Mmh.
Plusieurs d'entre vous ont soulevé un problème qui existait, qui était un frein en fait dans le territoire avec des diversités, parce que ce territoire il est très divers au niveau géologique et donc au niveau végétal. Renaud, tu y as fait allusion sur les sols pauvres, mais se surajoute par exemple sur le Cos, mes gens où tu es, un problème de climat qui d'ailleurs devrait pas s'arranger. Hein. Désolé de te le préciser, avec les changements climatiques, donc sécheresse plus des sols qui sont très caillouteux, pas très riches, et ça favorise pas non plus ce passage en bio, en élevage, parce que ça favorise pas l'autonomie en fait fourragère. Est-ce que tu peux expliquer un peu en deux mots?
Ben, en deux mots, ça va être un peu compliqué, mais disons que... Avant de passer en bio, on a tous une vision idéologique de ce qu'est le bio. Et on m'aurait demandé la question il y a 15 ans quand j'étais berger. Jamais j'aurais été en coopérative. L'autonomie fourragère était la priorité pour moi. Une fois qu'on est sur un territoire donné, eh ben, on essaye de faire les écarts les moins importants possibles entre la vision idyllique de ce qu'on voulait faire et la réalité du terrain. C'est sûr que le passage en bio sur le Cos et sur ma ferme, qui est une des fermes les plus pauvres du Cosméjean, je suis sur sol dolomitique, donc en gros c'est du sable, donc je cultive des prairies dans du sable, donc s'il pleut pas pendant 15 jours, il n'y a plus rien quoi. Donc forcément, en passant en bio, derrière, je fais une croix sur l'autonomie fourragère, mais c'est pas ça, moi, ma vision, c'est surtout remettre le troupeau au centre de l'élevage, et que le troupeau soit rustique, que j'accepte des pertes sur des années pour qu'ils réapprennent à se contenter de ce qu'il y a, et justement, ma vision, c'est plutôt produire avec ce que j'ai, et je cherche pas à avoir un objectif de production, je produis ce que j'arrive à produire avec la ferme que j'ai. une année comme les dernières où malheureusement on récolte quasiment rien l'été, où on pâture quasiment tout l'été, d'où la montée en estive cette année, on se retrouve avec un hiver malheureusement assez rude et avec des chenilles processionnaires qui nous empêchent de pâturer les rares coins d'herbe qu'on avait encore, c'est sûr que si on se tape des 5-6 mois de bergerie sur le Cosmégen, on est à 1000 mètres, c'est tout à fait logique de passer autant de temps. Bah là, ça fait très 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 mal financièrement, quoi. Vraiment très très mal. On parle en dizaines de milliers d'euros de pertes sur une année.
Et encore, toi, je sais que tu as des revenus bas et que c'est aussi le choix. Enfin voilà, oui, c'est ton modèle de production et d'installation. Je veux dire, mais voilà, c'est aussi ça la contrainte très concrète que ça. Hein.
C'est des niveaux de revenus bas. Voilà. C'est sûr que si on prend un exemple que moi j'ai très bien connu, qui est le Diwa, donc dans le Vercors, c'est une zone
dans la Drôme.
Dans la Drôme, la politique actuellement est à plus de 25% des terres en bio, et avec un passage à 50% à l'horizon 2030.
Ça, c'était sans Vauquiez à la présidence de la région, je crois.
Voilà. Après, du coup, ils n'ont pas du tout le même climat et pas du tout le même type de terre. C'est pour ça que j'adapte un système, moi, qui est assez peu connu ici, pourtant qui a existé il y a des années en arrière. C'est transhumer les troupeaux. C'est au lieu d'essayer de produire toute la ressource fourragère pour passer l'hiver, eh ben, c'est de se débrouiller pour transhumer. Après, on a des contraintes dues à la PAC qui nous fait vivre. Donc, on a des contraintes, ce qui est logique, qu'on doit respecter pour rentrer dans les clous de la PAC. Et je ne peux pas me permettre de transhumer autant que je voudrais. Le top, ça serait de transhumer l'été, transhumer l'hiver, enfin, voilà, pour chercher l'herbe là où elle est, au lieu de la produire à des coûts exorbitants et surtout dans une logique agroécologique qui n'est pas forcément...
Du coup, en fait, la façon dont tu conduis tes bêtes pose un peu... Enfin, je trouve la question des parcours et des parcours et en fait des possibilités aussi de peut-être résoudre une partie du problème du fourrage par l'accès... en fait, à des zones qui seraient peut-être plus riches, mais pour le coup, qui seraient en propriété privée. Et j'avais en mémoire un pacte pastoral qui a été passé pas très loin, avec au moins la communauté de communes dont dépend le Vigan, je ne sais plus comment elle s'appelle, où il y a eu un travail qui a été fait il y a quelques années autour de ce pacte pastoral qui est intéressant, puisqu'en gros, il incite entre collectivités, parcs et des groupements d'éleveurs, les propriétaires privés à ouvrir leurs espaces au parcours justement des bêtes. Je veux bien, si quelqu'un est au courant de ce pacte, peut-être avoir un petit élément d'actualisation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au courant de ce pacte qui est pas loin dans le territoire, ou personne en fait? Ouais.
Oui, un petit peu. Alors déjà, c'est Cos égale Cévennes en fait.
C'est ça, c'est Cos égale Cévennes.
Ce territoire-là. Effectivement, il y a des actions qui sont mises en place et il y a aussi sur les plus des communes, quoi. Ils intègrent cette notion de un droit pastoral, en fait. Donc après, c'est assez récent. Pour l'instant, il y a des actions qui sont un peu grand public aussi. Et je pense que ça va faire son chemin avec le temps, quoi. Ça reste quand même... c'est des actions qui sont inscrites dans le temps, en fait.
Et qui étaient en plus sur une base de volontariat. Hein, de contraintes...
Oui, oui. Alors là, peut-être c'était du volontariat, mais en fait, on s'est rendu compte, pour avoir travaillé pas mal sur là-dessus, on a fait des associations foncières pastorales, justement, où on a essayé de sensibiliser au plus près des propriétaires fonciers, qui avaient bien souvent un lopin de terre, qu'ils ne savaient même pas où il était d'ailleurs, et pouvoir justement organiser et résoudre le puzzle pour que les producteurs puissent amener les animaux sur ces terres-là.
Alors, c'est gagnant-gagnant.
Alors c'est gagnant-gagnant parce qu'il
y a du débroussaillage.
Il y a du débroussaillage, mais il y a le pâturage pour les agriculteurs. Il y a l'entretien des sous-bois et du débroussaillage pour les propriétaires. Et il y a aussi un enjeu sur le feu, puisque bien souvent ces milieux s'ouvrent et du coup sont un peu moins peuvent être un peu plus, j'espère, loin du feu si jamais il y avait en tout cas ils sont un peu plus ouverts, donc l'accès des pompiers et du coup on essaie de jouer gagnant-gagnant-gagnant, quoi, pour le coup. Et il y a des collectivités qui sont aussi dans le jeu, puisque au milieu des propriétaires divers et variés, des fois on a des collectivités aussi, donc il y avait besoin aussi de les mettre avec nous, et ça se passe plutôt bien en général, hein. Après on en a pas partout, mais...
Voilà, donc ça c'est une piste. L'autre piste aussi, Renaud et puis Camille, vous m'en parliez aussi, c'était l'idée de se dire que finalement dans les parcours et dans les rations alimentaires, on pouvait aussi élargir un peu ce qui se disait traditionnellement sur l'alimentation des ovins notamment, mais aussi caprins, et se dire que peut-être dans les zones de sous-bois, par exemple, on avait de la nourriture qui n'était pas forcément et toujours reconnue au niveau national et qui n'était pas non plus d'ailleurs éligible à un certain nombre d'aides, notamment les fameuses aides montagne, hein, alors qu'il y avait des réalités de possibilités, par exemple sur les glands, qui pouvaient avoir un intérêt nutritionnel pour les bêtes et qui manquaient de référencement là-dessus. Peut-être Camille ou Renaud, je ne sais pas.
Effectivement, mais quand tu m'as appelé, j'étais en train de garder les chèvres dans les sous-bois, et c'est pour ça qu'on en est venu à parler de ça. Au niveau de mon exploitation, mais de la plupart des exploitations cévenoles, on n'a pas d'autonomie fourragère, donc déjà pas d'autonomie sur les céréales du tout, mais même au niveau fourrager, c'est assez compliqué, à la fois parce qu'on a peu de prairies, du fait du relief notamment, on a des toutes petites prairies, faire du foin c'est pas forcément évident, quoi. Ça prend énormément de temps pour faire pas grand chose, et c'est des prairies qui sont... pense, alors je connais pas bien, mais meilleurs que sur le COS, mais qui sont quand même pas extraordinaires, quoi. Donc on fait un peu de foin, mais pas suffisamment pour nos troupeaux. Et par contre, il y a une utilisation importante des parcours qui s'est toujours faite, qui est d'ailleurs la base de la reconnaissance du lien au terroir entre le Pélardon et voilà, par rapport à l'AOP Pélardon. Mais c'est vrai que techniquement parlant, quand on établit une ration, on a beaucoup de mal à évaluer ce que les animaux ont mangé sur le territoire, quelle est la valeur de ce qu'ils ont mangé, et de pouvoir derrière équilibrer la ration, que ce soit en termes de quantité de foin à apporter à l'auge ou de quantité de céréales. Sachant que sur des caprins laits, on est... Alors c'est encore plus compliqué, je pense, que sur des ovins viande, où si on leur demande vraiment trop d'aller... de faire uniquement avec ce qu'il y a, on n'a vraiment plus de production laitière, quoi. Donc on a quand même des animaux qui sont à la fois exigeants en termes de besoins, qui sont difficiles sur ce qu'ils mangent, qui ont des lubies, on va dire, un petit peu, qui sont assez délicats. Et donc il y a tout un apprentissage à faire sur son territoire, sur sa propre exploitation. Donc là, je pense que...
Et même sur les distances, hein, vous me disiez qu'on ne peut pas imaginer des distances comparables pour les agneaux,
oui,
voilà,
les
brebis.
Oui, vous me disiez, peut-être qu'avec plus de surface sur l'exploitation, je m'en sortirais mieux, mais pas forcément, je ne peux pas. On rentre tous les soirs, quoi, ne serait-ce que pour la traite. Donc on ne peut pas non plus faire marcher nos animaux pendant 3 heures pour aller sur une parcelle et ensuite les faire revenir. Tout ce qu'elles vont manger va être utilisé pour dans l'énergie qu'elles vont utiliser pour aller sur la parcelle, quoi, voilà, pour faire du sport. Donc il faut quand même des surfaces qui sont relativement proches de nos exploitations. Et donc il y a tout cet apprentissage que chacun fait, hein, à son niveau, à la fois donc, sur sa terre, alors, sur son territoire. Il y a des références qui commencent à être mises en place. Au niveau des chambres, au niveau de l'Institut de l'élevage, il y a du travail là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est... C'est beaucoup plus compliqué, on va dire, que d'avoir sa prairie de régras trèfle et de savoir combien on en donne aux animaux. Et dont c'est des choses dont on connaît la valeur alimentaire. Voilà, là, c'est beaucoup plus intéressant, on va dire.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'à certains d'entre vous, je parlais d'un groupement, alors c'est pas chez vous directement, mais c'est dans Hérault et Lode, il y a un Civam Empreinte qui fait ce travail, en fait un groupement d'éleveurs, hein, et qui fait ce travail un peu de référencement sur de nouveaux parcours pour les animaux. Il y a à la fois de l'ovin, du bovin ou des caprins, et donc sur de l'extensif, et pour aussi référencer auprès du ministère aussi et faire évoluer le cahier des charges des aides montagnes par rapport à ça.
Non, c'est pas forcément les aides montagnes, c'est la reconnaissance des surfaces pastorales. C'est pas tout à fait les aides montagnes. Et au niveau ministère et au niveau l'ICHN, c'est l'aide montagne. Il y a deux choses différentes, enfin différentes, qui se complètent à un moment donné. Mais c'est l'éligibilité des surfaces. Et justement, pour que ces surfaces soient reconnues, c'est plus facile d'être sur la bosse, puisque forcément, on voit bien que ça va être des surfaces productives. Que quand on est sur nos territoires avec de l'embroussaillement, plus ou moins ouvert, plus ou moins fermé, avec des surfaces, avec des plantes que le commun des agriculteurs, celui qui est allé à l'école, on ne lui a pas appris que la feuille de tel ou tel buisson ou tel ou tel jeûner et se manger. Donc évidemment, il faut aujourd'hui, enfin depuis quelque temps, on travaille à rééduquer les gens du ministère, c'est un peu ce que vous disiez, et du coup les gens de l'Europe aussi, pour qu'ils attribuent une aide à ces surfaces-là et qu'ils reconnaissent que les agriculteurs qui sont dans ces surfaces-là, qui utilisent ces surfaces-là, qui les font vivre, hein, parce que c'est des surfaces, c'est des milieux, on fait vivre avec des animaux, mais on fait vivre aussi avec des hommes, des femmes, des enfants qui occupent ces territoires, et je crois que c'est la reconnaissance par l'Europe de tous ces territoires-là fait qu'on arrive à avoir des aides sur ces territoires-là, et que sans ces aides-là, on sait très bien qu'on ne vivrait pas que de la production, du peu de production de nos animaux, même si on s'applique à faire toujours mieux. Et il y a des références qui existent et qui doivent s'affiner. On le sait, on mène des expérimentations, on a une méthode qui s'appelle Stratalim qui essaie justement de comprendre ou de peser ce que l'animal va pâturer, combien il prélève d'herbe quand il est sur les parcours, quand il est dans les sous-bois, combien il prélève à l'automne de châtaignes ou de glands, et ce que ça lui apporte. Mais c'est quand même compliqué, même si on a des agents performants là-dessus, on a des pastoralistes, comme on dit, ça reste quand même quelque chose qui a encore un peu d'inconnu. Et on affine tous les ans. Et par contre, ce sont des agents, même si tous sont passionnés, je pense que ce sont des agents très, 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 très empreints du territoire, ces gens-là.
Je,